France Inter, le 18-20.
Piétons, vélos, autos, motos, bus, rollers, scooters, trottinettes, mais aussi maintenant gyropodes, monoroues, comment partager la voie publique? Comment pacifier nos déplacements dans un environnement saturé en voitures et camions? Un environnement dans lequel les nouveaux véhicules électriques tentent de se frayer un chemin le plus souvent au détriment des piétons. Que dire des plus vulnérables, enfants, personnes âgées et handicapées dans cette jungle urbaine que sont devenus les trottoirs? Sachant que le plus dangereux reste encore de traverser la rue. Pour rappel, 500 piétons ont trouvé la mort en 2017, plus de 11 000 autres ont été blessés. Alors ce soir, on pose la question, comment se déplacer sans risquer sa peau? Comment rouler sans s'énerver? Et pour commencer, quelle est la réglementation en vigueur? On en parle ce soir au téléphone sonne alors que la semaine de la mobilité se termine, que le gouvernement a présenté son plan vélo la semaine dernière et qu'on attend maintenant la loi d'orientation des mobilités. Avec nous, pour en parler, Véronique Michaud, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables. Anne Lavaux, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Déléguée générale de la prévention routière. Et Olivier Rasmont, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste
bonsoir.
Indépendant, spécialiste des mobilités, auteur du blog L'interconnexion n'est plus assurée, c'est sur le site du Monde. On attend bien sûr vos appels à tous au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et pour commencer, Raphaël nous appelle d'Angers. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir l'équipe de France Inter, bonsoir à tous.
Bienvenue bonsoir. À vous, on vous bonsoir. Écoute.
Merci beaucoup. Alors voilà, je me présente. Donc je suis moi une personne déficiente visuelle, donc je suis complètement non-voyant en fait. Et je constate depuis quelques années que on a de plus en plus besoin de se batailler quand on marche sur des trottoirs, quand on marche dans la rue, de se batailler contre des voitures, des motos, des vélos qui sont garés soit sur les trottoirs, soit n'importe où. Alors les voitures, c'est une chose, à la limite, c'est peut-être presque pas le plus grave, mais il y a de plus en plus de vélos qui sont garés, pas du tout sur les emplacements de vélos, mais contre des poteaux, contre des vitrines qui sont même pas attachées, qui sont rien du tout. Donc nous, on arrive sur ces engins-là, et au mieux, on les fait tomber. Au pire, on se prend un guidon dans les côtes ou ailleurs. Enfin bon, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais dans les tibias, et c'est de plus en plus pénible, je trouve. Voilà, c'est vraiment de plus en plus compliqué de circuler tranquillement sur un trottoir avec tous ces obstacles, sans parler aussi des poubelles, etc. Mais ça, c'est autre chose.
En tout cas, y compris à Angers, si j'ai bien compris, Raphaël. Ça veut dire que le problème n'est pas que parisien, je le précise. Hein,
Non, je pense que non, le problème est partout, en fait. Hein, partout dans les grandes villes, partout...
Gros problème de cohabitation, notamment sur les trottoirs. Qui veut commencer? Peut-être Véronique Michaud?
Oui, le problème que soulève Raphaël est effectivement commun à beaucoup de collectivités. Nous réunissons 2000 collectivités de toute taille. Il est plus aigu dans les cœurs des villes, dans les très grandes villes, certainement, parce qu'à la liste que Raphaël a faite, il pourrait ajouter à Paris... Je ne sais pas s'il a cité les motos, mais à Paris, il y a vraiment beaucoup de motos sur les trottoirs. Il pourrait ajouter ces nouveaux services en free-floating aujourd'hui, donc des vélos, voire des trottinettes en libre-service qui sont déployés sur l'espace public. Donc la question, elle est vraiment au cœur des préoccupations des villes aujourd'hui, de notre sujet ce soir. C'est l'espace public qui est un lieu d'intégration de tous, avec ses différences, avec ses besoins spécifiques, avec des handicaps, comme celui de notre auditeur. Et cette cohabitation, elle est... rendu un peu complexe parce que l'espace public n'est pas extensible, parce qu'il y a des incivilités. Je pense que, à la différence de Raphaël, les voitures constituent sont très voraces en matière d'espace public, ont une place pour le stationnement notamment qui est considérable et ne sont pas forcément les plus civiques. Donc c'est très important et je pense que c'est intéressant de commencer par une question avec un handicap. C'est qu'en France, on a beaucoup pensé le handicap peut-être autour de la circulation de la personne en fauteuil. C'est un point de difficulté, mais il y a aussi des gens qui souffrent de handicap visuel, auditif, et il est important de les prendre en compte pour mieux cohabiter.
Olivier, je me souviens qu'au moment de la loi 2005, sur le handicap, on avait insisté sur deux aspects, qui étaient la circulation à l'intérieur des bâtiments, et puis l'accès aux bâtiments, et puis la circulation dans la rue des personnes en déficience diverses d'ailleurs, et en fait on a totalement oublié cet aspect-là, et je pense là aussi que les poubelles c'est important, parce qu'on ne sanctuarise pas les trottoirs en fait. Les trottoirs sont des endroits où on met à peu près tout, et on ne se pose pas la question. Et effectivement, je dois avouer que je n'avais pas pensé au fait qu'on pouvait déranger avec juste un vélo posé près d'un poteau, également quelqu'un qui ne voit pas, je le reconnais maintenant. Mais simplement, il y a une question qui se pose plus généralement, c'est se déplacer n'est jamais gratuit a toujours un effet, toujours, même quand on est à pied et quand on est nombreux, ça fait une foule, et une foule ça avance moins vite qu'une personne seule. Et donc par définition, il y a des conséquences lorsqu'on se déplace. Donc une fois qu'on a dit ça, les conséquences elles sont plus importantes plus l'objet roulant est lourd, volumineux et plus il est puissant. Donc un camion est plus gênant qu'un vélo. Et puis c'est lié bien sûr à la vitesse. Donc comment on règle ça? Malheureusement en France, on a mis beaucoup de temps à se rendre compte du problème et à vouloir régler ça. On peut le régler de deux façons différentes. Soit on sépare et on dit, et là je pense que pour le trottoir il faut séparer, il faut dire le trottoir c'est sanctuarisé. D'ailleurs la ministre des Transports l'a dit ce matin en disant les nouveaux objets, la trottinette et autres n'ont rien à faire sur le trottoir. Soit on baisse la vitesse pour tout le monde. Et quand on baisse la vitesse pour tout le monde dans la rue, quand on met à 20 par exemple, les zones 20, les zones de rencontre comme on les appelle, eh bien ça crée une sécurité pour les plus faibles, donc autrement dit pour les gens qui sont à vélo en particulier et aussi pour ceux qui sont en trottinette. Et donc ils ont naturellement tendance à aller dans la rue, et tant mieux, c'est leur place, et c'est la vitesse dans une ville, c'est la vitesse des voitures et des motos qui est excessive. La vitesse moyenne c'est à peu près 15 km/h pour tout le monde, la vitesse ne devrait pas dépasser 20 ou 30, même en pointe.
Anne Lavaux de la prévention routière.
Oui, alors l'intervention de Raphaël est très intéressante parce qu'elle nous permet en ce début d'émission de dézoomer tout de suite sur la sécurité et la prévention routière pour la situer au niveau du civisme. Et c'est vraiment sur ce domaine-là qu'il faut agir. Notre association, vous le savez, agit sur les comportements routiers, sur les comportements globaux sur l'espace que l'on partage. Mais c'est du civisme ça. Et Raphaël a tout à fait raison de situer ce sujet sur ce plan-là.
Alors on va revenir sur tous ces points, mais comme cette émission s'appelle Le Téléphone Sonne, on va prendre un deuxième appel. Avant de poursuivre, c'est Béatrice, elle est à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, et elle est en ligne avec nous. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir Véronique.
Alors on dirait qu'on se connaît.
Oui, nous travaillons un petit peu ensemble, notamment sur les territoires de faible densité, dans le cadre d'écosystèmes. Et donc ma question, elle est simple. Est-ce que le vélo peut être une solution pour les territoires ruraux et périurbains de faible densité ou de moyenne densité?
Merci beaucoup Béatrice, Véronique Michaud, puisqu'on s'adresse directement à vous.
Je crois que la question, elle est importante.
Standard.
Parce que, dézoomer, disait Anne Lavaux à l'instant, on a longtemps pensé les modes actifs, la marche, le vélo et aujourd'hui les nouveaux modes dont on parle, la trottinette électrique ou pas, sur de très courtes distances. Or, on se trompe dans les trois cas, dans tous ces cas, sur leur capacité combinée à d'autres modes de déplacement ou parfois eux-mêmes en ayant des évolutions comme par exemple le vélo à assistance électrique qu'on manque considérablement la portée du vélo. On le voit dans les statistiques d'usage, notamment pour les trajets domicile-travail. Et c'est bien ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui pour penser ces modes actifs sur des échelles beaucoup plus grandes et non confinées à de l'hyper-proximité. Parce que c'est comme ça qu'on est resté longtemps dans des modes résiduels à qui on accordait une place sur l'espace public qui était vraiment résiduel, en disant bon, il faut un petit peu laisser de la place. Le développement de la voiture s'est fait aux dépens du piéton et on laissait un peu de place au vélo. On admettait depuis 20 ans qu'il fallait quand même encourager un peu le vélo. Or, c'est une solution à part entière. Et c'est ça qui change dans le discours aujourd'hui, je pense, dans le plan vélo et mobilités actives, et que notamment la ministre des Transports martèle, c'est que le vélo est un mode de déplacement à part entière, qu'il ne doit plus être regardé avec condescendance, et que dans les territoires peu denses, là où il n'y a pas de solution de transport public, ça peut être une solution à part entière. Et aujourd'hui, elle est accueillie comme telle par les gens qui n'ont pas souvent d'autres solutions et qui n'ont pas forcément accès à la voiture. Donc c'est important de raisonner sur des échelles territoriales beaucoup plus importantes que l'hyper-proximité et le déplacement de 1 à 3 km. La portée du vélo et des autres modes, d'ailleurs, est plus importante. Et je pense que la marche, il faut aussi la resituer dans ce contexte. C'est un mode à part entière. C'est aussi le mode principal de rabattement vers les transports publics collectifs et c'est bien cette articulation qui est importante.
Olivier Razemont, une petite question à propos des nouveaux modes de transport qu'on voit apparaître ces derniers temps, surtout sur les trottoirs, il faut bien le dire.
Pas seulement, ils sont beaucoup sur les pistes cyclables
aussi,
et ils sont aussi sur la chaussée.
D'après vous, ça répond à quoi? À un besoin véritablement particulier de déplacement ou à une mode? Parce que en quoi c'est plus agréable d'être sur une seule roue que sur un vélo assis sur une selle? Expliquez-moi.
Je me pose aussi la question, mais je pense qu'il faut un peu relativiser quand même. La personne qui a lancé en France le Lime, les Lime Bikes, donc les bicyclettes, pardon, les trottinettes électriques, enfin un des trois trottinettes électriques à Paris, m'a expliqué hier qu'il y avait il y a eu 100 000 mouvements en juillet. Peut-être qu'il y en a eu un peu plus en septembre, peut-être 150 000, je sais pas. 100 000, ça fait 3 000 par jour. Vélib, c'est 45 000 par jour. Le vélo, c'est 4 fois Vélib aujourd'hui. C'était beaucoup plus il y a quelques mois, mais maintenant c'est 4 fois, donc c'est 200 000 par jour. Donc bon, ça veut dire même s'il y a 5 000, même s'il y avait 10 000 mouvements de trottinettes par jour dans une ville comme Paris, il y a quand même 200 000 mouvements de vélo. Donc ça relativise quand même l'appétence pour ces trucs-là, mais non, mais pour ces moyens de transport qui en sont effectivement. Après, il y a une autre question que je me pose, c'est pourquoi il faudrait absolument que tous ces machins soient électriques. Il y a quelques années, il y avait des trottinettes tout à fait classiques, d'ailleurs que les parents empruntaient à leurs enfants. Il y avait déjà des skates, il y avait déjà des rollers, et voilà. Et là, il faudrait,
skates sont électriques.
Non, mais on est dans une société dans laquelle on a une épidémie de sédentarité monumentale. On nous dit, attendez, bougez, parce que si vous bougez pas, vous êtes tout le temps devant l'écran, ça va être une catastrophe dans 20 ans. Et puis, le seul mode qui est arrivé, c'est, il faut absolument que tout soit électrique, et surtout, n'utilisez pas votre corps pour vous déplacer. C'est bizarre, quand même.
Anne Lavaux, de la prévention routière. Vous avez fait une enquête, je crois, justement, l'attirance pour
ces
nouveaux engins.
Mais on a fait tester aux Parisiens mercredi, grâce aussi à un partenaire qui nous a accompagnés sur cette opération. On a fait tester aux Parisiens, on fait tester aux Lyonnais demain, puisqu'on sera à Lyon.
Et au Bordelais dans quelques jours.
Absolument. Et on a accompagné cet événement d'une étude. Et là, en fait, ça va apporter des éléments de réponse, peut-être à Béatrice, pour dire qu'il n'y a pas que le vélo pour les territoires ruraux, puisqu'on a 92% des Français qui ont déjà entendu parler de tous ces overboards, trottinettes électriques, etc. Il y en a 57% qui sont prêts à les utiliser. Donc ça veut dire que c'est pas uniquement un process citadin et résolument urbain. Et d'ailleurs, on a fait une étude Cali aussi. Et là, on a des ruraux qui nous disent qu'ils l'utilisent justement en multimodal, avec l'intention d'aller vers des transports en commun ou de l'utiliser de cette manière-là. Parce que finalement, une trottinette, elle est plus facile à rentrer dans le RER ou à rentrer dans un bus qu'un vélo. Et donc, l'intérêt de ce type d'outils de mobilité, c'est justement ça. C'est le fait qu'ils permettent d'aller vite parce qu'ils sont électriques et qu'on peut les mettre dans un autre mode de déplacement. C'est pas pour ça que c'est pas dangereux, mais on reviendra peut-être dessus.
C'est relativement léger, en fait.
On reviendra sur cette question de la sécurité qui, je pense, va être d'ailleurs posée par notre prochain auditeur qui est en fait porte-parole de l'association 60 millions de piétons. Jean-Paul Le Chevalier, vous êtes en ligne ?
Oui, je suis en ligne.
On vous écoute.
Eh bien, moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit là. Et moi, je défends évidemment les piétons, je défends les trottoirs et j'adore entendre dire que les trottoirs sont très encombrés. Les motos, les poubelles, les terrasses abusives, etc. Sur le point de la trottinette électrique des engins électriques et notamment la trottinette qui est le point en ce moment, ça vient avec l'arrivée des trois entreprises de location. Je tiens à rappeler très fortement que il n'y a aucun texte qui donne une tolérance à ces engins pour qu'ils circulent sur le trottoir et que la vitesse de 6 km à l'heure qu'on prononce très 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 régulièrement n'est pas non plus dans aucun texte dans le législatif français.
Donc pour vous, c'est en dehors du trottoir ?
Bien sûr, ces engins-là qui peuvent très facilement s'assimiler à une bicyclette parce qu'ils sont rapides, ils sont silencieux, ils sont monoplace, on peut les assimiler beaucoup plus à une bicyclette qu'à un piéton. Donc, il faut que la ministre qui va présenter une loi en octobre, si j'ai bien compris, elle prenne en compte cela et qu'elle mette ça à côté des vélos et non pas à côté des piétons sur le trottoir. Ça, c'est un point que je pense très important. Je me réjouis que la ministre parle plus ou moins dans le même sens que moi, d'ailleurs, puisque elle a dit que...
Elle a dit que ce serait pris en compte par la future loi, en tout cas. On attend.
Oui, oui.
Une petite question, peut-être, Jean-Paul ?
Comment vous dites ?
Une petite question, peut-être ?
Non, je voulais juste témoigner de l'intérêt que nous portons à cette loi qui va, j'espère, faire en sorte que les les trottinettes ne soient plus sur les trottoirs, et bien la conscience qu'elles sont gênantes sur les trottoirs.
Merci beaucoup Jean-Paul Le Chevalier. Anne Lavaux de la prévention routière, je me tourne vers vous, parce que tout à l'heure vous nous disiez c'est avant tout une question de civisme. Non, il y a peut-être avant tout une question de réglementation, de choses à préciser concernant l'espace public.
Alors, pour apporter un petit peu d'éléments supplémentaires à ce qui vient d'être dit, quand on a interrogé les Français, ils sont 74% à dire bah, il faut que ces trottinettes et tout ça, ça circule sur les voies cyclables. Il y en a 39% qui disent il faut que ce soit sur les trottoirs, donc ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui disent qu'il faut que ce soit les deux en même temps. Mais quand on interroge les utilisateurs, eux, ils nous disent qu'ils veulent être partout. Parce que, en fait, l'intérêt de cette nouvelle mobilité, c'est justement de pouvoir zigzaguer d'une voie à l'autre et de pouvoir, de ce fait, avoir le sentiment d'aller plus vite. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. On est dans un vide complet. Et même par rapport à l'assurance, et il faut quand même le rappeler, tout véhicule...
On a des questions qui vont
arriver sur ce sujet.
Mais je vous l'ai dit, parce que sur franceinter.fr, des gens nous demandent, mais qu'est-ce qui se passe pour ces véhicules quand ils sont mis en cause, qui est responsable? Comment ça se passe au niveau des assurances?
Donc en fait, tout le code des assurances dit que tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré. Et quand vous avez une trottinette qui n'est pas à moteur, elle est assurée par votre responsabilité civile que souvent vous avez dans votre multirisque habitation. Mais pour ces engins-là, il faut avoir une assurance spécifique ou une extension de garantie d'une autre assurance. Donc il faut de toute façon, pour les utiliser, se retourner vers les assureurs. Et vous savez, le fonds de garantie des assurances obligatoires qui indemnise les victimes des gens non assurés a déjà eu des cas de ce genre d'engin de déplacement personnel non assuré.
Oui, l'assurance, Véronique Michon, après vous, Olivier Razman.
Le vélo assistance électrique, qui est un vélo à moteur électrique, hein, même si c'est une assistance déclenchée par le pédalage, ne nécessite pas d'assurance particulière.
Mais parce qu'il a un mode de déplacement qui, lui, peut être actif.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et le problème, c'est le vide réglementaire, en fait, pour ces objets. Pendant les assises de la mobilité qui se sont tenues à l'automne 2017, il y a eu un groupe de travail sur les mobilités actives, où la question du statut de ces engins a été évoqué. Il y a un consensus qui s'est dégagé pour justement prévoir que ces engins de déplacement personnel électrique circulent sur les aménagements cyclables, soient acceptés sur les aménagements cyclables et dégagent des trottoirs. Effectivement, comme le disait Anne Lavaux, il y a un peu une demande qui est portée par les utilisateurs d'avoir cette possibilité qu'ils utilisent déjà et de revenir sur les trottoirs quand la voirie est plus rapide, etc. Ce à quoi nous sommes totalement opposés. Puisque les vélos sont descendus des trottoirs où on les confinait, où ils gênaient les piétons, où ils ne pouvaient pas rouler à la vitesse efficace d'un vélo, c'est pas pour qu'ils d'autres engins viennent encombrer les pieds des piétons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il va falloir faire deux choses, en fait, caractériser ces engins. Et aujourd'hui, il y a une norme européenne qui va aboutir en début d'année 2019, qui va permettre de définir un peu les caractéristiques de ces engins, qui va en dégager certains. Il y a des choses un peu hybrides avec des selles, etc., très lourdes, très dangereuses. Et puis il y aura l'évolution du code de la route lui-même et la possibilité éventuellement donnée à des maires de déroger à certaines des règles de base.
Olivier Razman.
Alors, le fait de mettre les engins en question sur les pistes cyclables, on peut comprendre la logique. Encore faut-il qu'il y ait des aménagements cyclables. On parle comme si on avait partout.
Comme s'il y avait des pistes cyclables partout. Oui, c'est sûr qu'il
y a plein d'endroits où il y en a pas.
Il y a des ruptures de pistes aussi.
Ça entraînera les choses.
Il y a des endroits où en fait, on a une piste cyclable qui s'arrête net à un carrefour. Parce que c'est plus compliqué pour un élu d'aménager le carrefour que de faire une piste qui longe une... Donc on est encore dans cette situation-là. Il y a plein d'endroits, j'ai vu ça l'autre jour à Lyon, un endroit où il y a simplement 10 mètres pour aller d'une piste à l'autre, ou d'une bande d'ailleurs cyclable le long d'un trottoir sur la chaussée, mais long d'un trottoir à une autre. Et là, un cycliste disait, moi, à chaque fois que je passe là, je me fais klaxonner pendant 10 mètres, juste parce que je vais, du point de vue des gens qui sont derrière moi, pas assez vite. Donc, encore faudrait-il qu'il y ait des aménagements. Il commence à y en avoir dans des endroits, dans certaines villes. La Fédération usagers de la bicyclette a fait l'an dernier un remarquable travail. Elle a demandé aux gens, à votre avis, dans votre ville, ça se passe comment? Il y a 113 000 réponses. C'était très intéressant parce qu'on a pu classer les villes en fonction de leur cyclabilité. Mais il y a des endroits où c'est une catastrophe, où on, quand quand on essaye de faire du vélo, on est coincé littéralement dans la circulation. Et on se souvient de ces images qu'on voit régulièrement de ce cycliste isolé au milieu de tout un tas d'embouteillages épouvantables dans les années 60. Moi, parfois, à vélo, j'ai un peu l'impression d'être encore ce monsieur-là.
Et puis, beaucoup de gens font pas de vélo, tout simplement, parce qu'ils ont peur et qu'il y ait des vraies questions de sécurité. On va prendre Marc, qui, lui... Bonsoir, Marc. Vous faites du vélo électrique, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui. Bonsoir, merci de prendre mon appel. Donc, je voulais parler du cas de vélo électrique et des infrastructures routières. Donc, moi, j'habite la campagne, en Haute-Savoie, et j'habite à 26 km d'Annecy, où je me rends au travail en vélo. Alors, en vélo électrique, j'ai un vélo électrique qui est assisté jusqu'à 45 km/h. Alors, c'est pas très connu. Donc, j'ai une carte grise, je suis immatriculé, j'ai obligation de porter un casque pour cyclomoteur, et j'ai interdiction de rouler sur les pistes cyclables. Alors, c'est un vrai problème parce que bon, quand j'ai 14-15 km sur la campagne, je veux dire là je risque pas grand chose, mais dès que j'arrive en ville, j'ai une bonne dizaine de kilomètres pour traverser Annecy et en fait je vais contre la loi puisque j'utilise les pistes cyclables, puisque en gros j'ai le choix entre prendre les pistes cyclables et prendre la route, et en prenant la route avec les voitures, c'est clair que je préfère rester en vie et prendre les pistes cyclables, quitte à être amendé, quoi.
Merci.
Il y a bien maintenant entre les vélos et les voitures, quoi.
Voilà, il y a un gros souci, donc il va falloir faire des trottoirs pour les piétons, non, des pistes cyclables pour les vélos, des pistes pour les vélos électriques, et puis
non.
Comment on s'en sort? Olivier Razemont, on s'en sort comment?
C'est caractéristique, on préfère toujours s'en prendre au plus faible. C'est tellement plus facile quand on est puissant, finalement, quand on va vite et quand on doit moins pédaler en l'occurrence, ou alors quand on est une moto, parce que c'est quand même ça aussi beaucoup dans les villes, hein, de plus en plus, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, etc. C'est en scooter, on prend aussi la piste cyclable parce que finalement on s'en prend en plus faible, c'est plus compliqué de s'attaquer à plus lourd que soi. Donc c'est un peu le réflexe. Donc là je pense qu'il y a une réglementation. Effectivement, un vélo à assistance électrique rapide comme celui-là, débridé comme on dit, il n'est pas débridé.
Non, c'est pas la même chose. C'est une catégorie bien spécifique de vélo à assistance électrique, donc il faut bien pédaler, mais qui sont dans la catégorie cyclo, pour faire très court, et dont la puissance dépasse 250 kW, et l'assistance peut dépasser 25 km/h, s'additionner à votre propre. Donc ce sont des vélos plus rapides. Il a quand même, notre auditeur, indiqué qu'il faisait 26 km, et qu'il avait forcément, venant de la périphérie d'Annecy, des pentes, je pense. Oui, donc il y a effectivement un attrait pour ce genre de vélo, et il est dans la circulation sans doute à vitesse plutôt proche des voitures. La question se pose, à mon sens, sur ces vélos-là, elle a déjà été évoquée, à l'étranger, il y a des réglementations qui peuvent être un peu différentes de la nôtre, c'est lorsqu'on aura un réseau de voies cyclables express, rapides, ou avec des pénétrantes importantes qui permettront de rallier des villes entre elles ou des centres urbains.
On peut toujours rêver, hein, parce que pour l'instant, on en est loin quand même.
C'est quand même avancé à Grenoble et c'est assez avancé à Strasbourg.
Voilà. À Bordeaux. Toulouse, on peut ajouter une troisième ville, c'est Bordeaux.
Voilà, et Toulouse aussi, voilà.
Et Anne Lavaux, de la prévention routière.
Et juste, je voulais quand même insister sur le fait que l'État met de l'argent aujourd'hui, 50 millions par an, précisément pour accélérer la réalisation aussi de ce type de réseau. Alors la question se posera, est-ce qu'il faudra accueillir ce type de vélo un peu plus rapide ou pas?
Anne Lavaux, de la prévention routière.
Oui, tout ce qu'on dit là, en fait, ça signifie une chose, c'est qu'on voit émerger de nouveaux risques, que ce soit ce type de vélo qui roule comme un cyclo, ou bien ces fameuses trottinettes, etc., qui ne sont pas des trottinettes, etc. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que face à ces nouveaux risques, il faut prendre tout de suite de bonnes habitudes, et surtout de bonnes habitudes par rapport à la gestion de ce risque. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous, pour tous ces engins de déplacement personnel, notre association pense qu'il faut qu'ils circulent sur les pistes cyclables et quand il y a des ruptures de pistes, et bien sur la chaussée. Ils n'ont absolument rien à faire sur les trottoirs, vraiment pas. Mais qu'en revanche, il faut que les utilisateurs de ces engins-là soient tout de suite carapaçonnés, tout de suite qu'ils aient un casque et tout de suite qu'ils aient un gilet jaune. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, quand on met ce genre d'attribut, on endosse également le risque qui va avec. On prend conscience qu'on se met en risque et qu'on met les autres en risque. Et donc c'est très important pour nous que, immédiatement, quand va se généraliser ce type de pratique, ce soit fait avec des attributs qui sont des attributs pour la sécurité.
Florence nous appelle à son tour. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
Vous êtes là, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Alors moi, je voulais témoigner. J'habite Paris et je suis cycliste. Rares sont les fois où je prends le trottoir parce que voilà, j'ai une attitude civique. Mais en fait, je voulais témoigner parce qu'en fait, j'ai écouté un peu les témoignages des premières personnes et je disais que je pensais que en fait sur Paris, ceux qui sont les moins civiques, ce sont les automobilistes, les camions. Parce qu'il y a beaucoup de camions de livraison. Alors les livraisons qui se font n'importe quelle heure de la journée, jamais la nuit. Donc nous, on se retrouve à gambader sur effectivement un petit peu les trottoirs. Mais voilà, je trouve que il faudrait partager la chaussée. Et on a beau avoir quelques pistes cyclables. Il n'y a pas de parking pour les cyclomoteurs, pour les scooters par exemple. Donc c'est vrai que sur les trottoirs, il y a pas mal de scooters qui sont garés, mais il y aurait plus de parking pour les scooters comme les parkings pour les voitures. Il y aurait les scooters sur la chaussée qui seraient garés. Enfin voilà.
Ah, ma pauvre dame, c'est bien compliqué tout ça. Merci Florence. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Hein. Anne Lavaux, le comportement des automobilistes. Et après, on prendra un automobiliste justement pour qu'il nous donne sa version des faits. On a tendance à dire effectivement que ce sont toujours les autres. Enfin, il y a quand même un souci avec les automobilistes, c'est vrai aussi.
Alors globalement, de toute façon, l'enfer c'est les autres. Hein. On a bien compris. Et donc on a du mal, chacun d'entre nous, à se positionner comme étant un usager multimodal. Or la réalité, c'est qu'on est multimodaux les uns et les
autres. On descend de la voiture, on est piéton.
On est piéton, voilà, et surtout dans les villes où on a la possibilité d'utiliser plusieurs modes de conduite. Donc c'est vrai que ce qu'il faut, c'est agir et travailler sur les comportements, c'est vraiment le combat de notre association depuis 70 ans, et de faire prendre conscience justement du danger qu'on a à soi-même et qu'on cause aux autres. Et qu'est-ce qui se passe à Paris? C'est que moi, j'entends beaucoup, et on fait énormément d'actions, on fait 40 000 actions par an, on entend beaucoup d'automobilistes nous dire qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur aujourd'hui parce que arrivent de toutes parts
des motos, des scooters, des vélos, des
piétons, etc., etc. Mais il n'empêche que malgré tout, ce sont les moins vulnérables. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est l'automobiliste dans sa voiture qui, s'il y a un choc, s'en sortira mieux que le piéton, le cycliste, le deux roues, etc. Donc il ne faut pas confondre vulnérabilité et responsabilité. Moi, je pense que les automobilistes, s'ils veulent continuer à circuler dans les villes, il faut effectivement qu'ils endossent un civisme différent et qu'ils aient conscience que les vulnérables, ce sont les autres.
Et on va d'ailleurs rappeler que depuis cette semaine, il y a une nouvelle réglementation concernant les piétons qui veulent traverser. On va peut-être quand même expliquer aux automobilistes que s'ils ne s'arrêtent pas pour céder la place aux piétons qui traversent, c'est 6 points de permis en moins, à condition évidemment d'être contrôlés. Mais c'est vrai qu'il y a du travail à faire de ce côté-là, ne serait-ce que pour laisser traverser un piéton. C'est pas gagné dans la mentalité française.
Alors, cette nouvelle réglementation, elle s'accompagne également surtout de la vidéo-verbalisation. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté sur les deux points supplémentaires, mais la réalité, c'est que c'est la 12e infraction qui est vidéo-verbalisable. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, on va réellement avoir des infractions qui vont être punies.
Olivier Razemont, Véronique Michaud, je vous repasse la parole dans quelques instants, c'est promis, mais Paul-Antoine attend depuis un petit moment au standard de France Inter. Il est automobiliste et il a envie de s'exprimer lui aussi. Bonsoir Paul-Antoine.
Bonsoir. Alors, je voulais dire que je n'étais pas seulement automobiliste, j'étais aussi un cycliste et que j'ai circulé à deux roues pendant très longtemps, d'ailleurs quand j'habitais à Paris à l'époque, et je sais ce que c'est que de circuler à deux roues et de faire gaffe aux bagnoles, et inversement. Moi, j'ai une petite entreprise et j'interviens pour faire des réparations, des entretiens, des choses comme ça. Donc, je roule avec ma camionnette tous les jours. J'amène mon gamin à l'école et ensuite, je prends ma camionnette et je suis dans la ville pour... voilà. Donc, la première chose que j'ai appris à mon gamin ces deux dernières années où on voit beaucoup, effectivement, de vélos, c'est attention, Théophile, la plus dangereuse des choses, ce sont les vélos. Ce sont ceux qui vous grillent les feux avec leur casque sur les oreilles, avec la musique à fond, au tel point qu'encore ce matin, il y en a un qui m'a doublé par la droite et que pour m'écouter, il a fallu qu'il enlève son casque pour m'entendre, alors qu'il m'insultait. Et avec mon fils, on s'amuse le matin et on compte le nombre de vélos qui grillent les feux et on compte le nombre de vélos qui ont un casque sur les oreilles. Et quand je dis un casque, je dis pas spécialement un petit casque des gros casques bien ronds, là, vous savez, des trucs pour écouter la musique à fond. Donc il y a plus de vélos avec des casques que de vélos sans casque.
musicaux.
Merci Paul-Antoine. Alors on va peut-être donner la parole.
Oui.
Non mais sur cette accusation contre les vélos, on laisse peut-être Véronique Michaud déjà vous répondre.
Bon, je crois que les cyclistes sont pas plus infractionnistes que les autres catégories d'usagers. Alors c'est vrai que c'est presque bon signe quand un automobiliste dit j'ai peur pour les vélos. Ben peut-être qu'il modère sa vitesse, Paul-Antoine, et que le dire à son fils regarde ses allumés, il a un comportement où il abaisse sa vitesse, il tient compte de la coprésence sur l'espace public, et puis il se dit qu'un vélo a jamais renversé une camionnette, quoi.
Paul-Antoine, il y avait la suite de la question.
Bien évidemment qu'un vélo n'a jamais renversé une camionnette, et moi ce qui me ferait chier, c'est de renverser un vélo un jour.
Eh ben, tant mieux, mais comme ça, vous êtes prudent.
Pendant 300 mètres pour tourner, et que l'autre me double à fond la caisse, alors que je vais tourner, mais quand même il le fait.
Mais il y a toujours des comportements individuels qui sont inappropriés, mais je crois qu'il faut pas.
Extrêmement mal élevé. Et je pense qu'il serait bien de faire attention et de légiférer un petit peu là-dessus. Après, j'ai juste deux choses à vous dire.
Je suis très très rapidement, Paul-Antoine, il est 53
là. J'ai juste 30 secondes. Je suivais une trottinette, j'étais à 50 km/h. Elle était sans casque au milieu d'une voie à trois voies. Et elle était à 50 km/h au milieu de la circulation. Donc je suppose que ça doit pas être très sécurisant pour lui. Et après, j'ai vu hier aussi une jeune femme avec des grands vélos, vous savez, où on met les enfants devant. Voilà. Et
elle vous a
derrière,
doublé aussi.
Il y avait une remorque avec trois enfants. Donc, il y avait trois enfants devant, trois enfants derrière et un vélo. Et elle était incapable de rouler correctement, ni même droit, ni même de rester dans la piste cyclable. Tellement.
Merci Paul-Antoine. Merci pour tous ces témoignages. Il y a du boulot en tout cas.
Hein. Oui, en fait, on n'est pas seul quand on est en ville. Il y a des autres, en effet. Rouler à 50 km en ville, c'est énorme. C'est une vitesse énorme, même là où c'est effectivement autorisé. Et donc, c'est pour ça de plus en plus qu'il y a des zones 30 partout. Je voudrais revenir sur la question d'avant, qui me semblait plus intéressante, sur celle de stationnement des scooters. En fait, il y a des tas de stationnements de scooters dans les grandes villes, à Paris en particulier, puisque la dame parlait de Paris. Simplement, le scooter qui prend de la place quand même, qui prend moins de place qu'une voiture, mais qui prend quand même à peu près un tiers de place qu'une voiture, il paye jamais son stationnement. Il n'y a jamais eu... Alors, il y a deux communes du Val-de-Marne qui ont commencé, Charenton et Vincennes, à faire payer le stationnement pour les scooters, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et alors que c'est une occupation de l'espace public. Vous allez à la gare d'Utrecht aux Pays-Bas, les vélos qui sont garés le plus près de la gare doivent payer le stationnement. Pas juste pour le plaisir de faire payer, mais parce que tout simplement, c'est de l'occupation de l'espace et que c'est un avantage d'être près de la gare, et ça semble assez logique. Donc il serait logique que dans des villes où il y a énormément de roues motorisées, les pouvoirs publics se décident à faire payer le stationnement là où il y a une densité très forte, et là il y aurait une rotation, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de scooters ventouses. Donc il y a une organisation, les élus, j'ai l'habitude de dire qu'ils ont de l'or dans les mains, c'est la gestion de l'espace public, ça demande pas d'argent, mais organiser l'espace au niveau de l'agglomération, de la ville, y compris du quartier, même du trottoir. C'est avec ça, ils peuvent changer beaucoup de choses dans leur ville.
En fait, c'est un vrai défi. Anne Lavaux.
Oui, je voulais juste compléter ce que venait de dire Olivier par rapport à 50 km/h, ça va vite. Et nous, on est très inquiets dans le plan vélo quand on entend que le contresens va être autorisé, y compris dans les 50 km/h. Je ne sais pas ce que Véronique en pense, mais pour nous, c'est vraiment un objet d'inquiétude.
On a du recul, puisque la Belgique, quand elle a adopté son code de la rue en 2004, a généralisé ce qu'ils appellent en Belgique les sens uniques limités. C'est la même chose que nous, double sens cyclable. Donc en fait, ça ne veut pas dire que c'est mis en place partout, mais ça veut dire que cette possibilité de circuler à deux, dans les deux sens d'une rue, une rue à 50 km/h, elle est donnée aux cyclistes. Le maire peut, dans le cadre de son pouvoir de police, réserver cette rue à un sens de circulation pour les cyclistes y compris. Le recul qu'on a sur la circulation à contresens est qu'elle est plutôt plus sécuritaire. L'échange de regards, les deux, l'automobiliste et le cycliste se croisant, il y a plutôt, par exemple, le recul important qu'on a sur le grand nombre d'aménagements en double sens cyclable sur la ville de Paris, fait qu'on voit que c'est plutôt plus sûr même qu'en sens unique.
Alors, je vous soumets la question de François, on va pas pouvoir le prendre parce qu'il est déjà 19h56. Lui, il dit on manque de place dans les villes, donc il faut plus d'espace. Est-ce qu'on ne pourrait pas libérer l'espace dans les rues en supprimant les files de parking des voitures?
Bah oui.
Oui, hein, Olivier Razemont.
Évidemment. Bonne idée. Dans les grandes villes, je parle pas de Paris seulement, il y a seulement 50-60% des foyers qui possèdent une voiture et seulement 30 ou 40% qui l'utilisent tous les jours. Et donc en fait, beaucoup de gens pourraient faire autre chose, c'est-à-dire ne pas posséder de voiture, mais en louer une, donc passer par l'autopartage par exemple, quand ils en ont besoin, et à ce moment-là, ça libérait de l'espace. Il y a aussi toute une série de parkings souterrains qui sont sous-utilisés, et donc effectivement, on a colonisé la ville avec la voiture individuelle, avec qui prend une place folle. Et effectivement, ça laisserait dans les villes d'ailleurs plus apaisées que l'on voit en Suisse, aux Pays-Bas ou dans le nord de l'Italie. C'est ce qu'on a fait et c'est très agréable pour tout le monde.
Une question de Lino sur franceinter.fr. C'est un auditeur qui nous dit qu'il a 14 ans. C'est pour vous, Anne Lavaux. Je circule en monocycle non électrique. Monocycle de cirque dans la ville. Je voudrais savoir si je peux rouler sur les trottoirs ou si je dois rouler sur la route. Qu'est-ce qu'on lui dit à Lino?
Ah ben, quand c'est non électrique, le trottoir est autorisé. Mais il ne faut pas qu'il dépasse 6 km/h.
Oh ben, comme
alors ça, je n'ai pas fait l'école du cirque. Moi, je ne sais pas si on peut circuler avec ce genre d'engin à plus de 6 km/h.
Alors, cette émission sera bientôt terminée. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table et que vous me disiez chacun ce qui, pour vous, serait la priorité aujourd'hui, sachant qu'il y a un plan en mobilité qu'on attend pour la fin du mois d'octobre. Véronique Michaud, pour vous, la priorité des priorités pour pacifier cette voie publique, que ce soit les trottoirs ou la chaussée?
Ben, je dirais que chacun prenne conscience, bien évidemment, les élus et les aménageurs en tête, mais ils le sont, je pense la plupart, que la ville, c'est pas qu'un lieu où on se déplace. On s'est laissé déborder en France par la fonction déplacement, qui a fait que la vitesse est priorisée, considérée comme légitime. La ville est un lieu où on se rencontre. Donc il faut absolument abaisser ses vitesses, comme l'a dit Olivier Rasmont tout à l'heure. Ça permettra une meilleure coprésence, plus de sécurité, plus de fonctions urbaines. Et la ville, l'espace public, se caractérise par la grande diversité de ses usages. Aller faire des courses, se rencontrer, visiter, regarder et s'arrêter. S'arrêter, c'est important.
Anne Lavaux, pour vous, la priorité des priorités, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, notamment au pouvoir public, même si alors, il y a aussi des choses à dire aux citoyens?
Oui, plus aux citoyens, c'est gérer le stress. Parce que tout ce qu'on a évoqué, c'est beaucoup en centre-ville. Et on sait que le stress de la foule, vous l'avez un petit peu dit, le stress de la foule est très important pour les populations les plus vulnérables, dont les seniors. Et donc, il faut apprendre aux gens à gérer leur stress, de manière à ce que ce sentiment de vouloir aller vite, qui en fait leur permet de gagner une ou deux ou trois secondes, ne leur fasse pas prendre des risques inconsidérés pour eux-mêmes et pour les autres.
Ils prennent conscience des risques. Le mot de la fin, ce sera pour vous, Olivier Rasmont.
La ville est un endroit formidable, pas seulement la grande ville, aussi la ville moyenne, et quand on la regarde et quand on l'observe à vitesse humaine, on découvre plein de choses et on est en plus de ça un très bon client des commerces locaux qui en ont bien besoin.
Mais le message pour la suite, il s'adresse à qui je vous pose la question à vous aussi.
On est tous
aux citoyens.
C'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet.
Au pouvoir public.
C'est très intéressant. Au début, c'était les citoyens qui s'occupaient de ce truc, qui un peu sur le mode mon problème, ma réaction, les autres, etc. Les pouvoirs publics s'en emparent de plus en plus, mais c'est une affaire de tout le monde. C'est intéressant que ça vienne dans le débat public, précisément parce que on a besoin de prendre cette affaire-là au sérieux, tout simplement. Tout ça, c'est pas juste pour rigoler. C'est un sujet très sérieux. C'est un sujet très important quand on se fait, quand on subit une incivilité dans la rue. C'est un sujet important.
Une incivilité ou plus grave, avec quand même un nombre important de morts et de blessés. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission également. Irène Ménem, Hugo Combe à la réalisation, Marianne Crimbault, technique Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Charles Pélabon. Merci aussi aux standardistes. Il est 20h sur France Inter.